Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de l'homme, je crois! Ça, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue bravo à quelques centimètres!
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène un peu partout dans le monde à travers des expéditions. Et des expéditions où on va se focus peut-être un peu plus sur une des destinations qui, moi, m'a fait rêver quand j'en ai entendu parler. Ça va être en Polynésie. Et c'est Guylain Bardou qui va nous en parler parce qu'il est le fondateur des expéditions Under the Pole. Guylain, comment ça va?
Alors bonjour Alex, bonjour à tous. Ça va bien depuis la Bretagne, depuis Concarneau où on est basé. Alors la Bretagne présentement s'apprête à recevoir une petite tempête, donc c'est plutôt beau, pas super super temps, mais je suis content d'être en France et je suis content d'être là.
Écoute, ça contraste un peu avec la destinée que je viens de te dire sur la Polynésie où on va aller un peu se focus, savoir comment ça s'est passé. Tu m'étonnes, le temps était quand même pas pareil, mais avant qu'on rentre dans ce détail-là, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est les expéditions Under the Pole et c'est quoi leur but.
Under the Pole, c'est avant de devenir en fait des expéditions. Under the Pole, ça a été d'abord une expédition, la première, qui s'appelait Deep Sea Under the Pole, qui était sponsorisée par Rolex et qu'on a réalisé en 2010. Rolex, c'est notre premier partenaire, c'est notre plus ancien, c'est un chouette partenaire, on en a d'autres aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, on a commencé avec eux, donc effectivement, on a une relation un petit peu particulière. Et puis, à l'origine, Under the Pole, l'idée, c'était d'aller explorer l'univers sous-marin de la banquise du Haut-Arctique, la banquise du pôle Nord, la banquise au cœur de l'océan glacial arctique, un milieu qui est menacé, un milieu qui était déjà menacé à l'époque, d'où une prise de conscience et l'envie, à cause ou grâce à ma passion pour la plongée, d'y aller, d'y plonger et d'essayer d'en ramener un grand témoignage en images, un documentaire sur ce monde de glace qui est unique sur la planète, qui est complètement hors norme et qui est un univers puissant, inspirant et que l'œil humain n'a absolument pas l'habitude de voir. Clairement. C'est ce qu'on a fait à l'époque.
Et c'était quoi justement quand tu dis c'était de faire un témoignage, c'était quoi le message que tu voulais transmettre que tu as voulu transmettre à travers ce documentaire?
Un monde témoigner, rendre compte, raconter, partager quelque chose qui, moi, m'intriguait et me passionnait depuis que j'étais tout minot. Sur lequel je me questionnais depuis que j'avais commencé la plongée sous-marine. Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce que ça va être très froid sous l'eau? Est-ce que ce sera noir? Est-ce qu'il y aura du courant? Et puis à quoi ça ressemble tout simplement? Parce que souvent les régions polaires, et puis la banquise en particulier, on en a une vision, on en a une idée qui est pas forcément exact. On voit ça comme une grande surface toute plate, toute blanche. On l'imagine, vue d'avion qui s'étend à perte de vue, alors que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Et c'est en fait un monde qui est complètement différent de tout ce qu'on va rencontrer ailleurs sur la planète. C'est un monde de glace. Mais c'est un monde de glace qui n'est pas plat, qui est chaotique, avec des paysages qui vont changer constamment, C'est un paysage qui est mouvant. C'est un des rares univers sur la planète, d'ailleurs, qui change continuellement parce qu'on est sur un tapis roulant de glace qui glisse sur l'océan. Et ça, ça en fait un univers à part sur la planète. Voilà, la banquise, et en particulier la banquise de l'océan Arctique, qui est la plus grande, la plus belle, la plus majestueuse, c'est un univers à part. Voilà. Et j'avais eu une première opportunité à l'époque où je travaillais avec Jean-Louis Etienne, c'était en 2007, d'aller sur un camp polaire russe qui s'appelait Barnevo, sur la banquise à proximité du pôle nord géographique. Ouais. Et dans le cadre d'une mission scientifique, il y avait eu un programme de plongée, voilà, sur lequel j'étais partie prenante. Et pour moi, ça a été déjà l'aboutissement d'un rêve à l'époque. Et puis, ça a été une révélation. Et c'est en rentrant dans l'avion que j'ai commencé à écrire en fait ce qui allait devenir Under the Pole, parce que je me rendais compte que les images qu'on ramenait à ce moment-là de cet univers sous-marin de la banquise, c'était qu'une toute petite fraction de ce que moi j'avais vu déjà. Et ce que moi j'avais vu, c'était qu'une toute petite fraction...
Mais qu'est-ce que t'avais vu, Guylain? Qu'est-ce que t'avais vu? En bribe, tu vois, genre si là les gens, ils ont un casque de réalité virtuelle qu'ils mettent sur les yeux, on est avec toi, du coup t'as pas réussi à le filmer, et que tu dis merde, c'est ça qu'il fallait que je ramène comme image, ils auraient vu quoi?
Alors d'abord, c'est un monde qui est glacial, hein. C'est un monde polaire, c'est un monde de glace. Quand on est en surface, bah, la banquise elle est blanche, elle est grise avec des reflets bleus, avec des teintes bleu foncé. Quand on se tourne vers le ciel, bah, il va être bleu si on a du pot et que le ciel est dégagé, ou alors il va être gris. Et quand il est gris, là ça devient beaucoup moins contrasté. Voilà, on est vraiment dans un monde gris, blanc, sombre. Et quand on passe à travers cette couche de glace, quand on creuse un trou dans la banquise et qu'on rentre dans l'océan, passer les premières secondes de l'acclimatation, tout d'un coup, on va se retrouver dans un monde de bleu. Et dans un monde avec la palette des bleus dans leur infinité, du bleu le plus clair, du plus pâle, jusqu'au bleu le plus sombre, le plus noir, en fait, quand on regarde vers le bas, qui tend vers le noir absolu, le noir des profondeurs. Et justement, on est aussi dans un environnement qui est inversé, c'est-à-dire que notre référence n'est pas comme habituellement dans l'océan, quand on plonge, où on va plonger sur un fond. Donc il y a une surface, il y a un fond, et on évolue en général entre les deux. Là, on est au cœur d'un océan, donc le fond est toujours à plusieurs milliers de mètres en dessous, donc il est absent, quoi. C'est une infinité d'eau, c'est une colonne d'eau infinie qui se présente sous nos palmes. Et notre référence, c'est non pas une surface d'eau, mais un plafond dur, un plafond de glace, et qui va pas être plat, ou pas, zone, il peut l'être, mais surtout, il va être chaotique. Il va y avoir des montagnes de glace qu'on appelle des crêtes de compression qui vont s'enfoncer parfois à 10, 20, voire 30 mètres sur la surface. Et c'est ça qui en fait, non pas un désert plat et froid, mais un univers de glace en relief avec des cristaux de glace dans tous les sens, de toutes les tailles, de toutes les formes, qui vont évoluer très rapidement au fil des jours et au fil des semaines, avec le printemps, par exemple, la période à laquelle... Et puis de la vie, voilà. C'est aussi un monde, toutes ces cavités abritent des crustacés, des crevettes, des poissons, des morues arctiques. On a eu l'occasion, alors pas en plongée, mais depuis la surface, d'observer des phoques, alors qu'on est quand même à 800 km de la côte la plus proche. C'est très étrange. Et c'est un monde, véritablement, qui est mal connu parce qu'on est littéralement au bout du monde, loin de la dernière terre est à 700-800 km, et la dernière base civile est encore plus loin. Et c'est inaccessible. Pour y aller, il faut en général toujours des expéditions qui coûtent beaucoup d'argent et qui nécessitent des moyens propres.
Bien sûr.
Et c'est à la fois ce qui fait la rareté de ce milieu et qui lui donne aussi toute sa force.
Ah, ça, c'est... Et du coup, à partir de là, quand tu es rentré, tu étais justement peut-être dans l'avion ou dans l'hélicoptère à ce moment-là, et que tu as eu cette idée de suite, Tu voulais montrer quoi de plus, dans le sens où tu voulais ramener des images, mais il y a eu toute une série d'expéditions. C'était quoi le but profond, en fait? C'était quoi ta mission profonde? Parce que quand tu es en Polynésie, t'es pas là pour montrer les glaces. Je pense que c'est un rapport aussi à tout ce qu'il y a dans l'océan, peut-être aussi à tout ce qui se passe en ce moment. Ça a été quoi l'ADN de ta motivation?
Je pense que ma motivation à l'époque, elle était double. Il y avait une motivation très personnelle, qui est un peu le souffle de l'aventure qu'on peut avoir quand on a la vingtaine. On a envie de découvrir le monde, on a envie d'aller explorer, voilà, des régions qui nous ont fait rêver ou qui nous ont fascinés depuis qu'on est tout petit. Et justement, quand on est tout petit ou un peu plus tard, en fait, l'heure n'est pas toujours venue. Et c'est vrai que jusque-là, moi, j'avais eu un parcours. En fait, je sortais
T'as
tout
pas le
juste de
bac,
ma
t'as pas le
jeunesse.
bac, tu peux le dire, c'est pas
Non,
grave, hein.
je sortais tout juste, en fait, de ma jeunesse étudiante, en fait, où
Ouais.
je gagnais pas beaucoup d'argent, et puis bah, j'étais étudiant, tout simplement, j'étais pas encore dans des projets de cette nature. Et voilà, en fait, après mes études, bah, j'ai mis un pied d'abord avec Jean-Louis Etienne dans ce monde de l'exploration,
Comment on
et puis
rencontre un mec
ensuite.
comme Jean-Louis Etienne quand on est étudiant?
Ah bah, ça fait partie de ces rencontres de la vie, de ces carrefours qui sont marquants et qu'on saisit ou pas. Moi, ça s'est fait d'ailleurs par l'intermédiaire de ma femme,
D'accord.
de cette femme qui est devenue ma femme par ailleurs quelques temps plus tard, Emmanuel, que j'ai rencontré sur un stage de plongée en Bretagne, d'ailleurs pas très loin d'ici.
Ok.
Et qui, elle, revenait d'une mission avec Jean-Louis Etienne, la mission Clipperton. Et en rentrant de cette mission dans le Pacifique, elle est venue se former à la plongée. Elle était marin, elle était plus dans le milieu nautique.
Ouais.
Et on s'est rencontrés comme ça. Et peu de temps après, elle m'a présenté Jean-Louis Etienne. Moi, j'étais
Ah,
encore étudiant.
elle voulait t'impressionner. Fais attends, tu sais, moi je connais Jean-Louis Etienne.
Ah,
Talala,
ça
viens.
m'impressionnait. En tout cas, je ne sais pas si elle, c'était son intention, mais moi, ça m'impressionnait. Parce que Jean-Louis Etienne, c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime. Alors là, depuis des lointains souvenirs, hein. Je me rappelle encore des missions avec son bateau Antarctica à l'époque, qui est devenu Tara par la suite aujourd'hui. C'était dans les années 89, 90, et puis toutes les années 90. Différentes missions en Antarctique, au Spitzberg, et voilà, et tout ça, en fait, ça m'a nourri, ça a contribué très certainement à créer un imaginaire chez moi pour lequel j'avais des affinités, celui de l'aventure, de l'exploration, de la découverte, du voyage à travers des expéditions. Maintenant, c'est un monde qui me paraissait inaccessible à moi, le milieu des expéditions. Il y avait un côté un peu mythique. Et puis, bah, en fait,
Ouais,
au
très haute
carrefour de mon
société, c'est
monde.
vrai que ça fait tout de suite, surtout à l'époque, ça faisait très noble, il fallait faire partie d'une certaine caste de la société pour pouvoir avoir accès. C'est un peu l'image qu'on en a, alors qu'aujourd'hui, pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a tous, tu sais, un référent. Enfin, tous ceux qui aiment le voyage, ils pourront dire, moi, il y a tel livre qui m'a marqué parce que je l'ai lu quand j'étais gamin, du coup j'ai voulu explorer. Et il y a tous aujourd'hui, celui qui est beaucoup plus populaire et présent, c'est Mike Horn qui, dans les nouvelles générations, remplace un peu. Il y a toujours un aventurier en fait qui, dans l'esprit des gens, marque et donne envie à je pense, tous les jeunes ados qui veulent découvrir le monde, dire hey, je vais faire comme lui, moi aussi. Sauf que toi, tu as eu la chance de le rencontrer directement. Et ça, c'est quand même plutôt, plutôt extraordinaire. Et ça t'a mené. Quand tu l'as rencontré, à te rendre compte que c'était quelque chose que tu voulais faire finalement comme métier, ou ça l'a rendu plus concret de rencontrer quelqu'un qui finalement avait réalisé quelque chose qui était un peu imaginaire à la base.
Non, ça a été une opportunité
Ah.
que j'ai saisie. À l'époque, j'étais étudiant, alors j'étais parti en Erasmus en Allemagne
Ouais.
et j'étais pas spécialement censé aller travailler avec Jean-Louis Etienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était au carrefour de deux expéditions qui montaient et il cherchait un jeune ingénieur stagiaire et j'ai postulé. Et puis finalement, ça s'est transformé en CDI très rapidement. Donc j'ai arrêté mes études pendant 2 ans, le temps de travailler avec lui. Et d'ailleurs, j'ai dû y retourner à la fin, parce qu'à la fin de la mission avec Jean-Louis Etienne, j'ai reçu un courrier, je me rappelle, c'était début 2008, comme quoi j'ai été viré de mon école, parce que ça fait trop longtemps que j'étais parti. Et ça collait pas trop mal, on va dire, avec le calendrier. Donc j'en ai parlé avec Jean-Louis Etienne, et évidemment, il m'a laissé repartir vers mes études pour boucler. Il me restait un an. Ça n'a pas été d'ailleurs l'année la plus facile parce que.
Ce que je veux dire, est-ce qu'on arrive à reprendre des études après avoir vécu tout ça, être entré dans la réalité de son rêve? Ça fait pas un peu comme un retour en arrière? Ouais, tu vois, il y a plein de gens, je pense, qui surtout en ce moment, se sentent plus peut-être. Tu sais, ça matche plus la vision qu'on leur donne des études avec l'avenir que ça leur réserve, et il y en a qui ont envie en fait de pas se lancer dans ce cursus-là et essayer d'être un peu plus autodidacte et se lancer dans des aventures un peu par eux-mêmes, peu importe de quelle direction. Est-ce que tu recommandes à des gens de finalement pas forcément aller au bout de leur cursus et tout de suite vivre leur rêve, ou au contraire avoir la patience d'aller jusqu'au bout parce que ça apporte quelque chose qui sera utile plus tard?
Il y a plein de chemins, je pense, mais pour dire les choses de manière un peu générale, je pense que c'est bien de terminer ce qu'on a commencé. Ah. Surtout dans mon cas, il ne me restait qu'une année à terminer pour obtenir mon diplôme. Bon, ça aurait été dommage de ne pas aller au bout. Ça, en fait, plus que l'apprentissage par lui-même, alors je vais dire quelque chose de très bateau, mais qui est très vrai, en fait, c'est le chemin en fait, qui est très formateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme quand on monte une expédition. La difficulté, l'adversité va nous nourrir, va nous forger, et c'est ce qui va nous donner les armes qui nous seront utiles le moment venu face à une situation difficile. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire que si on ne se confronte pas à la difficulté, quand elle se présente à nous, on n'est pas armé pour y faire face. Voilà. Et pour prendre l'exemple de mes études, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur mécanicien. En fait, j'y suis allé parce que je voulais être pilote. Okay. Et je ne pouvais pas être pilote. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas être pilote, je vais construire des avions. Et donc, je suis allé faire ingénieur mécanicien, parce que c'est comme ça qu'on devient, par exemple, dans l'aéronautique. Mais en fait, c'est un calcul qui est assez inexact, parce que c'est deux métiers qui n'ont rien à voir, qui sont très différents. Il y en a un qui se passe dans un cockpit et l'autre qui se passe derrière un ordinateur.
Pilote, voilà. Excuse-moi, mais tu as un peu foiré, là, Gilles, parce que tu construis des avions, tu as fini dans un bateau. C'est là.
Et ouais, on choisit pas toujours les chemins de la vie en fait, mais il y en a plein des chemins.
C'est ça qui est extraordinaire.
Mais par contre, tu vois, ce que j'ai appris en fait dans ces études, c'est à m'accrocher. Et ça, je pense que plus que les maths ou la physique ou la technique que j'ai pu faire, ça m'a appris à tenir bon quand c'est difficile. Alors il y a d'autres choses. Il y a d'autres manières de faire cet apprentissage. En fait, il y en a plein. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai retenu. Et que j'ai complètement retrouvé plus tard, par exemple, quand on montait ces expéditions Under the Pole. Il y a des moments où c'est très, très difficile. On a eu nos chemins de croix, on a eu nos traversées du désert. On a eu aussi des moments d'euphorie, des moments extraordinaires, bien sûr. Mais ce n'est pas facile de monter des expéditions. C'est un parcours du combattant pour trouver les financements. Et puis, des fois, si ça ne passe pas par la porte, il faut trouver d'autres chemins. Il faut s'accrocher.
Je pense que tu as vraiment raison là-dessus, dans le sens où je pense qu'on est aussi dans une génération où, tu sais, ils veulent tout de suite, c'est l'instantanéité, c'est tellement la culture des plaisirs instantanés à travers des jeux, à travers de peu importe ce que ça va être, de l'achat compulsif, que c'est vrai que je suis pas un grand fan de l'école, mais c'est vrai que ce que ça t'apprend, c'est au moins à pas lâcher. Et je pense que les gens aujourd'hui abandonnent trop vite. Tu sais, ils veulent réaliser des grandes choses, ils veulent devenir célèbres ou faire des grands voyages, mais dès qu'il y a une difficulté ou une déconvenue, ils ont tendance à abandonner parce qu'ils sont pas forgés cet apprentissage de faire face à l'échec, de faire face aux difficultés. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui a tendance un peu à manquer. Et je trouve ça vraiment formidable. Et justement, j'aimerais qu'on, qu'on prenne conscience aussi de la difficulté de monter des expéditions, comme tu as dit, comme les tiennes, qui sont dans des endroits extrêmes, dans des endroits qui nécessitent un matériel spécifique avec des moyens très conséquents. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont complètement en dehors de ce milieu-là, c'est quoi le process pour monter une expédition? Déjà, comment on fait pour trouver un financement? Parce que ça paraît complètement... tu sais, quand tu vois sur justement ton bateau, tu vois Rolex ou tu vois Mercedes sur le bateau de Mike Horn, tu te dis, mais les gars, comment c'est possible? Et on croit finalement que ça arrivait comme ça, je suis connu, donc j'ai un sponsor, sauf qu'à la base, avant d'être connu, il n'y a pas de sponsor. Comment ça fonctionne, cette construction?
Et je dirais même quand on est connu, ça reste toujours difficile. Hein. Faire d'illusions.
Voilà. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer la réalité du terrain en amont d'une expédition?
On a tous, je pense, des rêves de voyage, des rêves d'exploration, des rêves d'expédition, voilà, des grandes histoires, des grandes épopées qui nous ont fait rêver. Et moi, le premier. Toute ma vie, depuis que j'étais gamin. Et il y a un moment donné, ce qu'il faut, c'est une idée. Mais une idée, vraiment une bonne idée. Une idée différente. Quand j'ai écrit Under the Pole, j'en avais écrit d'autres, des projets d'expédition. J'étais étudiant, hein, j'étais pas du tout dans le milieu, mais ça m'attirait, ça me faisait rêver. Et je me prêtais un peu au jeu, voilà, de comment on va faire, tiens. Et il y a un moment donné, en fait, je me suis dit, ah tiens, là il y a un truc différent. Là, il y a une vraie idée, il y a une vraie quête. Il y a vraiment des réponses à aller chercher à des questions qu'on se pose. Il y a un défi. Il y a un défi, mais il y a un défi derrière lequel il va y avoir du sens aussi. Et je pense que ça, c'est fondamental. Le sens qu'on va aller chercher dans un projet, il peut revêtir différentes natures. Hein. Ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être le défi technique. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il y a, quelque chose, il y a une dimension hors norme. Faire une expédition, c'est mettre en place une énergie qui va au-delà du voyage entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'on va mobiliser soit des moyens humains, financiers, techniques, qui dépassent un petit peu la norme. Et donc, ces moyens, ils peuvent se justifier, mais à la condition d'être dédiés à une quête un petit peu extraordinaire, une quête un petit peu hors norme. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment le socle. Ouais. C'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Et derrière, bon, bah, le processus, d'abord ça commence par la réflexion, par l'écriture, c'est-à-dire qu'on va commencer par coucher ses idées.
C'est marrant, ça, on ne croirait pas. C'est-à-dire, tu poses, ouais, vraiment le fil conducteur de ton expédition, comment tu la vois, qu'est-ce que tu voudrais en retirer, c'est ça un peu.
Alors, tout dépend. Si on part tout seul avec son sac à dos, effectivement, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de coucher le projet sur un papier. Par contre, dès que ce projet va faire intervenir des tiers, que ce soit des personnes ou en particulier des sponsors, des partenaires, bah, la première question qu'ils vont nous demander, c'est est-ce que vous avez un dossier, hein? Est-ce que vous avez quelque chose, une lettre, un dossier, une vidéo?
Vous avez un CV? Voilà. Une lettre de motivation, voilà. Monsieur? Vous avez combien d'années d'expérience?
Et donc, bah, il faut faire ce travail d'écriture. C'est présenter le pourquoi du comment de l'idée qu'on a eue.
Mais ça, c'est
combien? Et c'est un travail qui est intéressant parce que ça ne va pas se faire comme ça en deux, ouais, minutes. Hein. En général, ça va prendre du temps. Et ça va nous permettre aussi de faire mûrir le projet, de nous confronter réellement à la question, à la quête pour laquelle on souhaite se mobiliser. Ça va nous permettre de structurer le projet. Et puis, petit à petit, en fait, on va le construire. Et ce processus-là, il est fondamental parce que c'est là où celui qui va justement porter le projet, va commencer à se construire lui-même et à se donner les outils d'aller au bout de son projet. parce que c'est un processus qui est long et petit à petit on le construit et en même temps ça s'affine dans sa tête et il y a un petit peu tous les rouages, tous les mécanismes qui vont se mettre en place et puis derrière bah, on va finir par avoir un dossier avec derrière éventuellement une entre guillemets étude de faisabilité. Alors par exemple la première expédition qu'on a fait au pôle Deep Sea Under the Pole, avant de monter mon dossier, j'ai passé 6 mois sur un tableau Excel, ou plutôt on va dire en parallèle de l'écriture de mon dossier, qui était une espèce de grand tableau structurant de la faisabilité du projet.
Ouais, c'était ton business model en fait. C'est avec cette somme-là. Dans le sens business model, évidemment, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Là, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais c'est ce côté où, avec cette somme-là, je peux faire ça. J'ai fait un petit benchmark des hélicoptères là au pôle Nord. Il y a cette compagnie qui est pas mal. Et en final, c'est aussi de te dire, ok, bah en fait, on peut faire ce trajet-là, mais pas celui-là. Ça, faut le faire peut-être à pied parce que bah, finalement, on n'a pas assez de sous. Parce que si on met ces sous-là, on n'aura pas les sous pour, je sais pas, la nourriture. Et je pense que c'est un peu ça. C'est où est-ce que tu mets tes billes, ta répartition.
Et puis, voir aussi, ça permet de faire une espèce d'audit aussi des contraintes techniques. Effectivement, bah, quelle compagnie aérienne est disponible, quelle capacité d'emport, pour quel coût, et donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme matériel. Ah bon, bah, ça passe plus à 6 équipiers, alors peut-être qu'il faut qu'on soit à 8, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut un avion, est-ce qu'il faut 2 avions. Et en fait, c'est un processus qui est long. Mais en faisant en fait, cet exercice, on va rentrer dans le détail du projet. C'est là où on va commencer à faire les listes des équipements, voir les contraintes, les intérêts. On va tisser un réseau parce que comme on n'a pas toutes les réponses, on va donner des coups de fil et puis on va se faire aiguiller et puis on va se faire conseiller. Et c'est comme ça qu'on monte le projet. Et à un moment donné, il est prêt. On écrit un dossier. Et là, on commence à prospecter sur Internet. C'est une croisade. C'est clairement ça. C'est la partie la plus difficile en fait, la levée de fonds, le financement.
Bien sûr.
C'est le parcours du combattant et c'est en général là où s'arrête la plupart des projets qui ne voient jamais le jour parce que ça peut prendre des années. En général, ça prend des années.
Ah ouais, à des c'est années.
Pas... Ouais, des années. Hein. Moi, la première expédition, on a mis 2 ans et demi. De montage. La deuxième expédition dans The Pole 2, on a mis 3 ans.
Ah ouais.
La troisième expédition qui est actuellement en cours, qui est un projet qui fait 4 ans hein, autour du monde, mais on a mis... Alors là, ça a été plus rapide. On a mis 1 an et demi à...
Ah, pas mal.
À la montée. Ouais,
un an et demi pour 4 ans d'expé, on sent que tu t'améliores sur le dossier, là.
Et on est devenu... Non, mais en fait, au-delà de ça, c'est surtout... je pense aussi que le travail de long terme...
Bien sûr, a une réputation... Évidemment.
Voilà, et puis, mais après, c'est aussi des rencontres. Il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on peut être très bon avec un très bon dossier. C'est pas pour autant qu'on va y arriver, parce que peut-être qu'il va nous manquer le petit coup de pouce, il va peut-être nous manquer la rencontre ou le contact. Et puis inversement, des fois, on a un partenaire qui vient vers nous parce qu'il a entendu parler de nous et qu'il a eu un coup de cœur. Voilà. Mais il y a quand même une vérité, c'est que c'est un parcours du combattant, il faut être endurant. Et c'est ça qui fait la différence. Il faut être endurant, il faut être persévérant. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les études. Et c'est là où on apprend, c'est là où on se forge, c'est là où on apprend. Oui, c'est dur, mais je tiens bon. Et en fait, c'est comme ça qu'on va se forger. Et c'est comme ça que quand on s'est retrouvé sur la banquise par moins 40 à tirer des traîneaux et à plonger sous la banquise, on avait une énergie qui était infinie. Il n'y a rien qui pouvait nous arrêter parce que avant d'en arriver là, pendant 2 ans et demi, on avait bataillé pour pouvoir être là. Et donc, à partir de là, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On est en mode rouleau compresseur. On sait où on va. On a un objectif. On s'est donné les moyens. Il y a l'équipe autour de nous et on avance. Et ça se passe bien. Voilà, en général, ça se passe bien.
Et ça, je merci d'avoir bien détaillé ce point parce que je pense que y en a qui se rendent pas compte que c'est pas en claquant des doigts que on obtient des budgets, que c'est pas parce qu'on est connu, comme tu dis, même avec de l'expérience, que pas de problème, on vous renouvelle le budget, etc. Que à chaque fois, c'est énormément d'efforts, c'est des ressources psychologiques, mentales, et de la patience en fait, de la patience pour à chaque fois reconstituer des expéditions qui vont convaincre des sponsors. Et ça, je pense que c'est un joli parallèle aussi avec des projets totalement accessibles à tout le monde. On veut tout de suite partir là, faire tel truc sur un coup de tête, acheter un billet d'avion, et que parfois on laisse pas le temps, comme tu dis, à cette envie de mûrir, de grandir, cette motivation de devenir sans faille, pour que en fait sur le jour où on arrive sur le terrain, en fait, on apprécie tout ce qui se passe et qu'en fait tout nous passe au-dessus, toutes les difficultés paraissent presque simples parce qu'en fait on a tellement galéré à arriver jusque-là qu'en fait c'est pas grave. Alors que quand c'est trop facile, des fois on dit oh, pff, ouais, c'est chiant, on n'apprécie pas parce que c'est trop simple. Et je pense que la difficulté en amont prépare vraiment à l'appréciation sur le moment. Et j'aimerais qu'on arrive justement sur cette expédition que tu es en train de vivre, celle qui t'a amené aussi en Polynésie. Qui justement, il y a vraiment un passage que j'aimerais qu'on creuse, et j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu faire ça et que tu nous décris, parce que autant tu nous as extrêmement bien décrit l'univers sous la glace, j'ai envie que tu nous décrives ce que tu as fait, parce que les gens savent pas, ils disent mais qu'est-ce qu'il a fait le con en Polynésie. En fait, tu as créé une capsule où tu as pu séjourner dans cette capsule sous l'eau. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Pourquoi avoir eu cette idée-là? C'était quoi le but? C'était quoi que vous alliez chercher? Qu'est-ce que vous alliez, si c'était scientifique, qu'est-ce que vous en avez retiré? Raconte-nous un peu, fais-nous plonger avec toi dans cette aventure.
Alors, le programme Capsule, c'est la dernière mission qu'on a réalisée, effectivement, il y a un an, on y était. C'était en Polynésie française. Et on a construit effectivement de A à Z un habitat sous-marin très simple. L'idée, c'était de pouvoir séjourner sur des temps moyennement longs, mais en continu, au cœur de l'océan, aussi profond qu'on le pouvait. Alors aussi profond, avec des moyens simples, on ne pouvait pas aller très profond, ça on le savait d'entrée de jeu. Mais la capsule, voilà, était installée à 20 mètres de profondeur.
Ah,
on a fait des séjours de 72, 75, 78, 80 heures. En gros, c'était les durées.
Trois jours d'affilée, 3-4 jours d'affilée dans la capsule.
On faisait trois jours pleins dans la capsule. Alors, en rentrant, en sortant, en plongée, l'idée c'était.
Du matos de plongée en plus à gérer.
C'était okay. D'essayer de repousser une certaine forme de limite qui se pose au plongeur. Parce que un plongeur passionné comme je le suis se heurte à un certain mur. C'est-à-dire que on endosse un scaphandre, on descend, on va séjourner quelques minutes ou quelques heures, peu importe, dans le monde sous-marin. Mais toujours, quelle que soit la profondeur à laquelle on est allé, assez rapidement, finalement, on doit revenir en surface. Et d'ailleurs, tout l'apprentissage du plongeur repose sur ce retour en surface. Revenir en surface, en sécurité, en bonne santé, que ce soit soi ou ses équipiers. Bien tout sûr. L'apprentissage de la plongée repose là-dessus. Et on s'est dit, bon, alors comment essayer de repousser cette limite? Parce qu'aujourd'hui, on a des bons scaphandres, il y a eu des développements technologiques depuis 10 ans, 20 ans, qui ont considérablement fait évoluer les capacités d'exploration du plongeur, notamment avec une formidable application qui est la recherche océanographique, la recherche du biologiste marin dans le milieu, la recherche, une quête de connaissances de manière plus générale, en rentrant dans le milieu. Voilà, le plongeur qui va découvrir le milieu directement avec ses palmes. Mais on se heurte toujours à cette même difficulté, celui du retour. Et finalement, il y a un côté frustrant d'abord, mais il y a un côté un peu insensé en fait dans cette limitation. C'est justement l'océan, c'est le seul environnement de la planète où on peut pas rester plus que quelques dizaines de minutes ou quelques heures à l'observer. Toujours, on doit remonter. Les déserts, les régions polaires, les montagnes. On peut toujours y séjourner. Il y a peut-être la très haute montagne qui y ressemble. On peut monter en haut de l'Everest.
Ouais, tu peux rester plus que quelques minutes quand même. Hein, donc
plus que quelques minutes, mais quelques heures, mais pas quelques jours.
Ouais.
Sauf quelques rares exceptions, mais on va dire pour le commun des mortels, en général, c'est des zones
Bien sûr.
Où on ne peut pas rester trop longtemps. Mais voilà, donc on s'est dit, comment faire pour essayer de repousser cette limite? Voilà. Alors, il y a des technologies qui existent déjà, c'est celles qui ont été développées par l'industrie pétrolière à partir des années 50-60, surtout.
Qui sont?
Qu'on appelle les techniques de plongée à saturation. Donc, c'est des techniques qui utilisent des moyens très lourds, bateaux, barges, et puis surtout ce qu'on appelle des tourelles. C'est des ascenseurs, on va dire, des cylindres en acier qui sont bardés de bouteilles, qui sont reliés avec des tuyaux, des câbles à la surface, et dans lesquels on va mettre trois plongeurs. Ils descendent à une profondeur donnée, 100 mètres par exemple.
Oh.
Les plongeurs sortent, font un travail, par exemple assembler des pipes ou entretenir un pipe, et puis ils remontent en surface sur le bar, sur la barge ou le bateau.
Oh.
Mais ces techniques, elles coûtent très cher. Voilà, très très cher. C'est compliqué, ça nécessite toujours des moyens lourds. Donc on s'est dit, bon, peut-être que entre ces technologies très lourdes et le plongeur avec son scaphandre sur le dos, il y a un entre-deux fait de compromis sur lequel on pourrait travailler. Et donc on s'est dit, essayons de nous inspirer justement de l'himalayisme, du camping. C'est-à-dire qu'un alpiniste, un himalayiste, dans sa quête du sommet, il va partir d'un camp de base confortable, avec des tentes, mess, cuisinier, équipier.
Ouais, enfin, quand le camp de base il est à 5000, t'es pas non plus au Novotel quand même, hein, on se comprend.
C'est pas le Novotel, mais c'est justement pas non plus les camps d'altitude. Les camps d'altitude qui sont des camps intermédiaires entre ce camp de base et le sommet,
c'est vrai.
Et qui sont des camps très rudimentaires, une tente rapidement montée, parfois sur une pente, qui est simplement fait pour offrir un abri de quelques heures, d'une nuit, deux nuits, pour survivre dans un environnement qui n'est pas fait pour l'homme, qui va lui permettre de se reposer, de se réchauffer, de se mettre à l'abri du mauvais temps, de manger, et puis de repartir dans sa quête du sommet. Et on s'est dit, bah, essayons de faire pareil dans le milieu sous-marin. C'est-à-dire que nous, notre quête, notre sommet à nous, c'est pas la profondeur, ça va être le temps. Et pour rester longtemps dans le milieu sous-marin, il y a un moment donné, le plongeur, bah, il a besoin de se reposer, il a besoin de pouvoir manger, dormir, se réchauffer. Et donc, on va essayer de lui offrir une tente. C'est vraiment parti comme ça. Alors après, il y a des contraintes techniques liées au milieu qui fait que bah, notre capsule, c'était un cylindre en aluminium avec deux grands dômes aux extrémités pour pouvoir observer justement le milieu de manière panoramique.
T'avais une vue panoramique, ouais. C'est ça,
envoyé à 360 degrés sur le récif, ouais, dans toutes les directions. Et il y a un sas, c'est simplement un trou en dessous qui permet de rentrer et sortir. La grosse différence avec une tente atmosphérique en surface, c'est que justement on est dans l'eau, on est sous pression, c'est-à-dire qu'on ne respire pas une atmosphère à justement un bar comme en surface, on respire une atmosphère sous pression. Alors à 20 mètres, il y avait donc 3 bars.
Attends, c'est ça que j'ai. Alors déjà, qu'on visualise, c'était grand comment? On peut être debout, on peut, c'est parce que si en plus faut stocker des bouteilles, il y avait une petite kitchenette, comment ça se passe, comment on fait pour faire à manger, pour les besoins, est-ce que on passait par la petite, hop, on repartait un petit peu dans l'océan et c'était réglé. Alors, raconte-nous, et c'est parce que là je pense qu'il y a des gens ils disent attends, il était dans un tube, un cylindre, enfin je comprends pas, tu vois.
Alors,
on remet le casque de réalité virtuelle, Guylain.
Alors le casque de réalité virtuelle. Alors on est dans une eau très claire sur le récif de Mouréa en Polynésie française,
ça me
à 20 mètres de profondeur, et le fond est à 23 mètres. Et notre capsule est donc suspendue à des gros lestes qu'on appelait des ballasts, qui sont eux posés sur le fond. On est suspendu 3 mètres au-dessus.
Okay.
La capsule, c'est un cylindre qui fait 2 mètres de long et 1,50 m de diamètre en aluminium peint en blanc.
Ah ouais.
Vraiment un cylindre. À l'extrémité duquel on a deux demi-sphères en polycarbonate transparentes,
ouais.
Un peu comme on a dans des aquariums parfois, et donc qui permettent, quand on se penche, de voir à 180 degrés d'un côté et à 180 degrés de l'autre. Donc avec ces deux fenêtres panoramiques, on voit vraiment à 360 degrés sur le récif. À l'intérieur, c'est très rudimentaire. On a trois lits
dans 2 mètres sur 1,50 m. Ah ouais, ah c'est optimisé.
Alors, là, c'est complètement optimisé. Ça peut se mettre en mode banquette, en mode table. Voilà,
Ah, c'est un
c'est du
van
vrai camping.
sous-marin.
Pardon?
C'est un van sous-marin en fait. C'est souvent les vannes, t'as la table qui
Il y a
se
un
transforme en
côté
lit,
exactement
t'as
ça.
les tiroirs un peu partout, tu t'avais pas pensé.
Il y a le côté van sous-marin. La différence avec le van, c'est que là, pour le coup, on a juste les lits et de la technique. On n'a pas de kitchenette, on n'a pas de frigidaire. Les repas, là, pour le coup, ça se rapprochera plus de la tente de l'Himalayiste. C'est des repas qui sont préparés en avance
Ouais.
et qu'on descend, par exemple, avec des Tupperware dans ce qu'on appelait une navette,
OK.
qui est un cylindre pressurisé qui nous permet de faire des va-et-vient avec la surface.
Ouais.
Donc on a l'alimentation qui est préparée en surface, qu'on consomme à l'intérieur. Après, on vit avec des horaires qui sont assez proches de ceux qu'on a en surface. On se couche le soir quand il fait nuit. On se lève le matin quand le soleil se lève. On mange aux heures des repas. Et le matin, l'après-midi et parfois la nuit, on sort en combinaison, on enfile notre scaphandre et on va explorer le récif sans limite de temps.
Comment ça,
Et
sans limite de
ça,
temps? Oui, enfin, si, parce qu'il
c'est-à-dire...
faut que les bouteilles, elles soient, faut que les bouteilles, elles soient quand même, enfin, t'as ta limite de bouteille, de consommation de ta bouteille de 45 minutes, une heure.
Ouais, mais en fait, alors on utilise ce qu'on appelle nous des recycleurs, qui, comme leur nom l'indique, vont recycler le mélange de gaz et qui procurent une autonomie qui est considérable. C'est-à-dire qu'avec des toutes petites bouteilles, on va avoir une autonomie de plusieurs heures.
Ah ouais?
Et ces scaphandres, on
Imagine.
les, ils sont repréparés tous les jours.
Ouais.
Par une équipe qui vient nous les apporter depuis la surface. Et donc, nous, on a notre scaphandre et on peut le prendre, aller se balader
Ah.
sur le récif, aller faire des observations, parce qu'on avait des programmes d'observation sur le récif, et puis revenir à l'abri dans notre habitat, dans la capsule.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement durant ces périodes sous-marines où tu te la joues un peu la Kevin Costner dans Waterworld, le mec qui veut respirer sous l'eau en gros? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand on reste autant de temps dans un univers dont on n'a pas l'habitude? J'imagine qu'il peut être semblable peut-être aussi aux astronautes où en fait tu perds un peu pied, t'as plus tes repères. Est-ce que en plus le côté aussi exigu sur 72 heures, est-ce qu'il y a l'ennui? Est-ce qu'il y a du coup la fatigue peut-être qui va impacter certaines émotions? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une expérience qui est complètement hors norme, qui est complètement extraordinaire. C'est-à-dire que on vit pas sous la mer. On n'est pas fait pour vivre sous la mer. Et c'est des occasions qui se présentent très très rarement en fait dans une vie. Là, on a pensé cet habitat. On est parti d'une feuille blanche. On l'a construit. On l'a mis en place. Et à un moment donné, une de mes plus grandes sensations, un de mes meilleurs souvenirs, mais justement en termes de sensations, qui a été le plus surprenant, c'est la première fois que j'ai quitté la surface pour aller à la capsule. C'était la toute première immersion qu'on allait faire, le premier séjour de 24 heures, c'était 24 heures test. Et je me suis retrouvé en surface, dans les secondes qui suivaient, j'allais m'immerger, et j'ai dit salut à l'équipe. Et là, c'est très spécial parce qu'en fait, au moment où je m'immerge, je sais que je m'immerge pour ne pas remonter. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, mais au-delà de ça, ça va à l'encontre du bon sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas des poissons. On est des mammifères terrestres. On est fait pour respirer en surface. Et là, tout d'un coup, je sais, mon corps me dit, Guilain, là, tu descends, mais il faut que tu remontes. C'est l'instinct de survie. Et d'un autre côté, mon cerveau me dit, mais non, Guilain, il n'y a pas de problème, tu descends, il y a une capsule qui a été étudiée, il y a une atmosphère qui est respirable, vous le savez, voilà. Et donc il y a un peu cette ambivalence, une partie de nous qui nous dit, vas-y, l'autre qui nous dit, n'y va pas. Alors évidemment qu'on y va, parce que tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Mais voilà, c'est une espèce de voix intérieure un peu innée, une sensation un peu innée, un réflexe de survie en fait, qui nous parle. Et ça, c'est très spécial. Je l'ai vécu à ce point-là, vraiment sur la toute première immersion. Je l'ai plus vécu par la suite. Pourquoi? Parce que, passer la première expérience, voilà, j'avais acquis un certain nombre de pensées, d'automatismes, de réflexes, où voilà, c'était devenu quelque chose de tout à fait normal et ouais, faisable.
Ton cerveau avait appréhendé cette nouvelle expérience. Et quand t'es arrivé dans la capsule et que t'es resté plusieurs heures, voire même plusieurs jours d'affilée, ça a eu quel impact sur toi? T'en as tiré, est-ce que déjà ça a été quoi les impacts peut-être psychologiques? Et est-ce que t'as tiré des leçons de tout ça, tu sais, des leçons personnelles? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, tu sais, souvent quand tu te dépasses physiquement et mentalement, il y a toujours des, on en retire toujours des choses. Qu'est-ce que ça a été sur ce moment-là?
Le souvenir le plus extraordinaire, il est très simple, c'est celui de pouvoir être confortablement installé sous la mer, assis à ma place dans la capsule devant le hublot, et de pouvoir contempler l'océan de l'intérieur sans aucun stress, sans aucune limitation. Justement, quand on est plongeur, on est toujours fixé à sa montre parce qu'on doit remonter au bout de quelques minutes. Voilà, on va avoir des paliers, et donc faut limiter le temps au fond, faut contrôler le temps des paliers. On est toujours contraint par le temps. Et là, c'était la première fois de ma vie que je n'avais aucune contrainte de temps. Je savais que je pouvais rester là, à 20 mètres de profondeur, dans la capsule, à contempler le récif de l'intérieur, un jour, deux jours, trois jours. Et ça, c'est rare. Et c'est une expérience... C'est une expérience qui est complètement exceptionnelle de pouvoir justement être au milieu des poissons, d'être parmi les poissons sans en être un réellement, mais d'arriver à vivre voilà, dans cet univers qui n'est pas fait pour nous, encore une fois, mais où grâce à la technique, grâce à la technologie, on arrive à se créer des conditions de survie et à vivre en fait des instants qui sont rares mais qui sont infiniment riches et on sait aussi qu'ils ne se répéteront pas forcément souvent. C'est pas simple d'aller au pôle Nord, c'est pas simple de monter en haut de l'Everest, c'est pas simple de vivre sous la mer. Et quand on a la chance d'être dans l'instant présent, de pouvoir vivre ces moments. Alors déjà, il faut en avoir bien conscience et en profiter pleinement. Et puis à un moment donné, on sait que ça aura une fin. On va rentrer, on va revenir à notre vie de terrien, on va revenir à notre référentiel. Et peut-être que l'expérience se reproduira, je le pense, je le souhaite. Mais encore une fois, rien n'est jamais gagné. Voilà. Toutes ces expériences, elles sont toujours complexes à monter. Ça prend du temps et de l'énergie. Et il n'y a jamais rien d'acquis à l'avance. Et donc, quand les conditions sont réunies et que les choses se font, c'est là, je pense, déjà une des plus belles réussites. Et c'est peut-être ça que j'ai savouré aussi quand j'étais dans la capsule. Au-delà des observations que je pouvais faire, c'était la satisfaction d'être allé au bout et d'avoir réussi à créer en fait cette expérience, cette capsule, pas tout seul, hein, c'est toute une équipe qui a fait ça. Et voilà, c'est ensemble, on a réussi à le faire. Et ça c'est une satisfaction qui est prodigieuse. Et c'est certainement ça d'ailleurs aussi, hein, ce qu'on cherche tous à travers nos expériences.
Ouais, bien sûr.
C'est à un moment donné d'être, de chercher, voilà, c'est un peu une quête du bonheur, une quête de satisfaction dans ce qu'on entreprend.
Aller plus loin que l'on connaît, où personne n'est jamais allé. Et après cette tirade qui m'a vraiment emmené sur le côté plutôt émotionnel et psychologique, j'ai une question qui va être totalement pragmatique, mais est-ce qu'il y avait du coup un câble qui vous injectait de l'oxygène en permanence dans la capsule? Est-ce que c'était des bonbonnes qui avaient été implémentées? Comment vous pouviez respirer? C'était quoi la mise en place technique pour vous permettre de respirer sans souci? Parce que tu me dis que, et j'aimerais qu'on y revienne, tu respirais à 3 bars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es dans la capsule, tu parles comme ça et tu respires comme ça. Ça veut dire quoi, tu vois?
Alors, quand on est dans la capsule, on a plutôt une voix de Donald Duck parce que...
Ah, c'est... Ah, c'est comme l'hélium. On parle comme ça un petit peu.
En fait, on respire de l'hélium.
Mais non.
Il y a deux conditions physiques qui nous donnent cette voix de Donald Duck. Il y a la pression, déjà, qui modifie la voix. Et ensuite, il y a le fait de respirer non pas de l'air, avec 21% d'oxygène et 79% d'azote, mais un mélange de 14% d'oxygène. Et la différence, 86% d'hélium, pour des histoires de décompression, tout simplement, pour essayer de minimiser le temps de décompression pour revenir en surface. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si on avait de l'air, si on respirait de l'air, il nous faudrait presque 24 heures, en fait, pour revenir en surface, un
ah,
peu
oui,
moins.
D'accord.
Ça peut être très long. Alors qu'en changeant le mélange, et en optimisant en fait notre décompression, on peut la réduire. Dans notre cas, c'était à 4 heures. 2 heures dans la capsule elle-même, en modifiant simplement le mélange qu'on respirait.
Ah.
Et ensuite 2 heures dans l'eau.
Ah, c'est quand même 2 heures juste de palier de décompression en remontant tout doux, quoi.
Dans l'eau, ouais, on mettait 2 heures.
Ah ouais.
Et ça, c'est un des défis, en fait. C'est ça qui limitait notre profondeur. C'est pour ça que la capsule était à 20 mètres et pas à 30, par exemple, parce qu'à 30 mètres, le retour en surface aurait été trop long. Et ah. À un moment donné, c'est là où la sécurité va intervenir. Qu'est-ce
Bien
qui
sûr.
Se passe si on a un malaise, si on a un accident de décompression?
Bien sûr.
C'est quoi la procédure d'évacuation? C'est quoi la procédure de sécurité? Alors ça, c'est les côtés moins romantiques des expéditions, mais
Bien
qui
sûr.
Sont... qui sont des réalités et qu'on prend en compte dans les définitions.
Mais excuse-moi, Guilain, mais quand tu arrives dans la capsule et que tu commences à parler comme Donald Duck et que tu es sous hélium avec les autres personnes qui étaient là, vous avez dû pleurer de rire pendant 20 minutes. Enfin, j'ai envie de dire, l'euphorie de l'adrénaline d'avoir réalisé un de tes plus grands rêves, te rendre compte que tu parles comme Donald Duck, parce que ça fait toujours rire à la télé les mecs qui se tapent des délires à l'hélium là, et sauf que là c'était en permanence. Genre, vous avez... en fait c'est pour ça que t'es resté 3 jours à la base, tu voulais rester 3 heures juste pour voir, sauf que t'as tellement rigolé que tu t'es dit viens on reste là quoi.
Alors oui, cette voix de Donald Duck elle prête clairement à la rigolade. Parce qu'on s'en est pas lassé, on s'est marré dès le début.
Ah d'accord,
effectivement.
Ok. On est d'accord.
Mais au fil, en tout, il y a 15 plongeurs hein, qui ont fait des séjours dans la capsule.
Ouais.
À travers, j'ai même plus en tête, mais on a fait, je sais plus, une quinzaine de plongées à saturation.
Ouais.
Et on s'est toujours marré et on a toujours rigolé. Ça se prête à faire des blagues, voilà.
Ouais,
en fait,
ouais.
C'est-à-dire dès qu'on a envie de rigoler un peu, faut pas chercher beaucoup pour déclencher des fous rires. Donc, ouais, ouais, ça c'est le côté un petit peu léger et rigolo.
Mais c'est important, je pense.
Et c'est vachement important.
Parce qu'il y a beaucoup de tension quand même dans une expédition.
Et on s'est toujours marré dans la capsule. C'est pas tous les jours facile. Hein. Moi, j'ai eu des douleurs au dos, par exemple.
Ah ouais.
Parce qu'on manque d'activité, parce que on peut pas beaucoup bouger. Mais chacun a eu des ressentis un petit peu différents. Bon, il y avait des ressentis communs, mais par exemple, voilà, je sais que c'est il y a deux points d'amélioration pour la prochaine mission, l'alimentation. Qui était déjà très bonne, mais pour aller plus loin, par exemple, je pense que si on voulait rester plus longtemps, 4 jours, 5 jours, une semaine, on pourrait, hein. Mais il faudrait vraiment dans ce cas-là faire un gros travail d'ergonomie, de préparation physique et d'entretien physique,
ouais.
Et puis d'alimentation.
Ouais, clairement, parce que je pense que il y a un truc qui me vient tout de suite. Je te vois tout recroquevillé, mais est-ce qu'on se fait pas quand même bien chier à un moment donné? Parce que c'est marrant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on regarde les poissons, mais 3 jours, on apporte un bouquin, on discute, comment tu est-ce que l'ennui
occupé.
Vient ou pas? Ah, vous êtes occupé, ok, à quoi?
On est très occupé, non, on s'ennuie jamais. On est sollicité. J'entends. Je me tourne vers l'extérieur parce qu'il y a ils viennent de mettre un. On est à Concarneau, c'est un chantier naval, et ils viennent de mettre un gros bateau à l'eau qui est en construction depuis plusieurs mois là, et ils sont en train de l'inaugurer, donc il y a les sirènes.
Je suis désolé, voilà. Je t'ai fait louper l'inauguration du bateau.
Non, il n'y a pas de souci. Non, je disais, on est très occupé parce que il y a beaucoup de choses à faire déjà. Il y a l'entretien de la capsule, il y a le contrôle, voilà, de des paramètres de l'électronique, du pilotage un petit peu qui est automatisé mais qui nécessite quand même une veille. Il y a les ravitaillements quotidiens et puis surtout les journées commencent tôt parce qu'on se lève dès les premiers rayons du soleil, c'est-à-dire qu'on est encore dans la pénombre. On se réveille pour observer le récif. On avait différentes observations scientifiques, en particulier un focus sur le lever du récif, le coucher du récif, comment les animaux vivent, se croisent, les animaux diurnes qui vont se lever le matin et qui vont croiser justement les animaux nocturnes qui eux vont se coucher, inversement le soir. On avait des plongées sur le récif pour essayer de capter la reproduction des coraux, les coraux qu'on a longuement étudiés sur le programme précédent en Polynésie française qui s'appelait Deep Hope, qui était un gros programme d'études des coraux qu'on appelle mésophotiques, c'est les coraux de la zone profonde entre 30 et 150 et plus même mètres de profondeur. Et là, on essayait de comprendre sur ce programme dans quelle mesure les coraux profonds pouvaient servir de refuge, de nursery pour les coraux moins profonds qui sont malmenés par l'activité humaine, le réchauffement climatique, voilà tout ça. Et là, sur Capsule, on en revenait encore une fois à ces coraux et en essayant de capter la reproduction des coraux, la ponte des coraux, c'est ces coraux qui vont lâcher des œufs à un moment donné, à un moment très précis de la nuit. Une fois par an.
Une fois par an.
Ça dépend. C'est très rare. Voilà, c'est à un moment donné où tous les coraux sont synchronisés en même temps. Ça n'avait jamais été observé en Polynésie française, dans le milieu naturel. Ça avait été déjà observé ailleurs. Et donc, on a essayé de capter ça en Polynésie. Et d'ailleurs, donc on y est arrivé. Et il s'est trouvé que la ponte était coordonnée d'ailleurs avec les coraux en laboratoire. Voilà.
Ah oui! Ceux qui étaient en laboratoire ont pondu le même jour que ceux...
Ça fait partie de ces mystères de la nature. Et il y a d'autres endroits, la Grande Barrière de Corail, par exemple, en Australie, où là, il y a une immense diversité corallienne. Et les coraux pondent en même temps, une même nuit. Et c'est des instants qui sont très, très courts. Voilà, ça va durer quelques minutes. Et donc, il faut...
T'as intérêt être là, quoi.
Voilà, il faut être là et c'est pas évident.
Tu sais, moi, tu t'as parlé de tout cet aspect scientifique, et justement, quand on parle d'expédition, on imagine toujours, le mec, il plonge sous la glace, il est dans sa capsule, il tire son traîneau, et dans le froid, etc. J'aimerais que tu, en tout cas sur l'expédition capsule en Polynésie, c'est quoi le quotidien? C'est quoi votre quotidien? Parce que ça dure plusieurs mois. À quoi ça ressemble? Parce que je pense que j'aimerais bien en fait que concrétiser un peu plus, les rendre plus concrets dans l'esprit des gens, ce qu'un explorateur et scientifique explorateur va vivre dans son quotidien. Parce que évidemment, on parle toujours des highlights, genre avec ces belles images, mais ça, c'est finalement peut-être, 10%, j'imagine, du quotidien ou pas. C'est quoi typiquement une journée type quand on est là pour prendre sur la Polynésie française, quand vous êtes sur le bateau?
Ça va beaucoup varier selon les programmes, selon leur nature. C'est difficile de répondre de manière très générale comme ça. D'accord. Juste pour donner deux exemples, notre première expédition au pôle, il y a eu le montage, la préparation, l'entraînement qui a duré presque 3 ans avant de partir. Et quand on part, on s'est retrouvé 45 jours au cœur d'un super congélateur, au cœur de la banquise. Et là, on est dans un état de survie d'abord. On est là avec une mission, avec des objectifs pour lesquels on est préparé et vers lesquels toute notre énergie est tendue en permanence. Et c'est très difficile. C'est comme un alpiniste qui va gravir une montagne. Quand il est dans son ascension, toute son énergie, toutes ses facultés sont tournées vers l'ascension parce que c'est très technique et c'est très difficile. Les expéditions qu'on a fait, par exemple en Polynésie ou même avant, quand on était encore une fois au pôle, mais avec cette fois-ci le Wai, notre navire d'exploration, c'est différent parce que l'échelle de temps change. Tout d'un coup, on est plus dans une mission très très pointue, très très ponctuelle. Ça peut même être sur plusieurs semaines, mais
bien sûr.
Là on est dans une échelle de temps qui est différente, avec des moyens différents, on va avoir des moyens de télécommunication, et puis surtout une échelle de temps qui va être de plusieurs années. En tout cas, nous, nos expéditions, ont toujours été sur des échelles de temps très longues. North Pole 2, c'est 2 ans au Groenland. North Pole 3, c'est 4 ans autour du monde. Wow. Et sur ces 4 ans, on n'aura pas passé tant de temps que ça en France. On a quelques retours, mais finalement assez peu. Et donc, le quotidien, là, il va être entre gestion courante, plongée, entretien du bateau, bureau,
ouais, paperasse, ouais, bien sûr,
gestion de l'équipe, coordination scientifique, logistique, technique, entretien. Et ça aussi avec l'appui, en tout cas nous aujourd'hui, d'une base arrière par exemple. On a ici où on vit, on a des bureaux. Et petit à petit, voilà, on a une équipe qui s'élargit. C'est un peu la base arrière, c'est le back-office. C'est l'équipe qui, dans la partie préparation de l'expédition, va œuvrer au montage du projet. Et puis, une fois que la partie terrain est lancée, qui va appuyer l'expédition en base arrière avec un accompagnement technique, logistique, l'approvisionnement, les envois de matériel, les transferts de matériel ou les rotations d'équipe, ce genre de choses. Et ça, c'est absolument essentiel parce que aujourd'hui, c'est... En fait, derrière le côté romantique de l'expédition, de l'aventurier, du scientifique qui va travailler sur la calotte antarctique ou du Groenland ou au fin fond d'une forêt de Papouasie, bah, il y a toujours, ou en tout cas très souvent, une organisation et donc une administration derrière. Et ça, c'est le côté qui est moins glamour, mais qui est réel. C'est un projet entrepreneurial, hein. c'est une entreprise. Alors c'est une entreprise qui peut être sous la forme différente, ça c'est des aspects juridiques, c'est une association, mais bah, derrière c'est des équipes, c'est des bénévoles, c'est des salariés, parfois des stagiaires, et puis ça va et ça vient, et on traite nous aussi avec l'URSSAF, avec le fisc, avec un cabinet d'expertise comptable, etc. Ça, c'est aussi la réalité.
Et c'est très, très chronophage. Voilà. Et parce que moi, à chaque fois que je vais faire ma compta tous les mois, ça me rend dingue. Sauf que c'est quelque chose qui, dès qu'il y a un projet qui est, comme tu dis, qui implique plusieurs personnes et où il y a de l'argent, même si ce n'est pas des sommes astronomiques, il y a toute une partie en fait administrative qui n'est pas à négliger. Et c'est vraiment ça que je voulais aussi que tu décrives, parce que de la même façon que tu as dit qu'il faut, quand dans la préparation, ça prend énormément de temps, il faut être très patient, il faut être consciencieux, c'est une partie extrêmement importante de l'expédition. La gestion sur place aussi, les expéditions, c'est pas que je traverse une forêt, je fais mon feu et je fais de la chasse pour manger. C'est surtout quand il y a un aspect scientifique, il y a une réalité de gestion du terrain, des hommes et des missions scientifiques au quotidien à gérer, qui est énorme. Et c'est pas que ce côté genre « Hey, viens, on va plonger, voilà la capsule !» Donc c'est là où je pense que les gens donneront encore plus, je pense, le mérite à ces expéditions-là, en fait, de dire « Ah ouais, en fait, ouais, c'est pas juste tous les jours glamour, on va plonger, on va sous la glace, et qu'il y a une vraie partie... gestion projet, en fait, qui est ultra importante.
Qui est complètement réelle, mais en fait, qui est incontournable. Et effectivement, je pense que aucun entrepreneur, aucun gestionnaire, aucun... On fait pas ça par amour de l'administratif. On fait ça par passion, parce que on a un rêve, parce que on a une croyance, parce que on a une quête, parce qu'on est curieux et qu'on a envie d'aller chercher des réponses aux questions qu'on se pose. Et la mise en œuvre, en fait, passe par, et c'est normal dans le monde dans lequel on vit, alors même si des fois, moi aussi, j'enrage un peu sur la lourdeur, mais voilà, ça fait partie du truc. Il y a une organisation derrière, et cette organisation, elle est juridique, elle a des aspects fiscaux, elle a des aspects comptables, et c'est comme ça. Mais ça fait partie en fait de ce cheminement qui est long, qui est difficile, mais qui fait aussi qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon dans le temps et exactement. Il faut monter une structure, il faut monter une asso. Et ben montons une structure, montons une asso, c'est pas grave. Hein. Il faut un bureau, et ben on aura un bureau et on doit embaucher. Bon bah.
Bon, on verra. Pas les moyens, on verra.
Et puis si un jour on y arrive, eh ben tant mieux. Et puis c'est petit à petit qu'on grandit. Mais par contre, c'est tout ce cheminement en fait qui prend du temps. On grandit avec le temps, on grandit avec les années. Et c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça aussi qu'on va chercher les ressources, la force qui va nous permettre d'arriver encore une fois en toutes circonstances. À franchir les obstacles. Voilà. En tout cas, je le souhaite. Les obstacles, en fait, ils changent de nature parce que les référentiels changent. Aujourd'hui, les difficultés que je vois devant moi ne sont pas les mêmes que celles que je voyais hier et ne sont certainement pas les mêmes que je voyais demain. Et elles peuvent soit être vues à la hausse, soit être vues à la baisse. Tout dépend, en fait, de...
Savoir s'adapter.
Quel est notre environnement aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que je suis accompagné ou pas ? Et puis... Puis ce qui est très important aussi, je pense, hein, c'est pourquoi on fait tout ça, en fait.
Bien sûr.
Tu me posais la question au tout début, comment c'était né, Under the Pole, pourquoi ? Et je te disais qu'il y avait un aspect très personnel, l'envie de découvrir le monde, l'envie de mordre, voilà, l'envie de voyager. Mais il n'y avait pas que ça, hein, déjà, à cette époque-là. Il y avait... ce sentiment, c'était en 2007, juste après l'année polaire internationale, qui avait fait un gros focus sur les régions polaires, et ce cri d'alarme des scientifiques sur la fonte de la banquise, sur le réchauffement climatique, mais qui est plus rapide en Arctique que partout ailleurs, et la fonte de la banquise. Et il se trouve que depuis, en fait, ces cris d'alarme, ils ont lieu tous les 2-3 ans, ou encore cette année, hein, là, c'était le 21 septembre. La banquise, c'est le deuxième record historique de faible surface, de faible extension de la banquise sur l'océan Arctique. Et voilà, c'est ça aussi, je pense, l'exploration aujourd'hui, c'est se mettre, en tout cas pour une forme de l'exploration, celle que nous, on a choisie, c'est se mettre un petit peu au service de cette quête de connaissance dans un but de partage, en fait. Acquérir des connaissances, témoigner. Alors, il y a plein de manières de le faire. Hein. Ça peut être simplement dans les images qu'on va en ramener, dans l'expérience humaine qu'on va en retirer, dans les sensations qu'on va éprouver, qu'on va pouvoir partager à un moment donné, pour essayer de changer les choses. Voilà, cette connaissance scientifique, humaine, et le témoignage, etc., ça doit servir, je pense, une cause. Et c'est là où nous... on en trouvera tous une satisfaction, et je pense que c'est là où l'exploration elle trouve tout son sens. Hein. De toute façon, c'est dans le partage, et même au-delà de l'exploration d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très caractéristique, je pense, de l'être humain.
Je suis d'accord, ouais, c'est ce côté
c'est
partage.
C'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà.
Ouais. Et quand on a de plus en plus besoin.
Hier, c'est pas la même exploration que demain. Hier, elle avait tout son sens. Mais le sens de l'exploration d'hier, je pense, n'est pas le même que celui d'aujourd'hui.
Non, je pense qu'effectivement, le sens de l'exploration d'hier, c'était d'explorer, d'aller voir des lieux qui n'avaient pas vraiment été explorés, mais pour de vrai, et essayer de faire comprendre ce que c'était. Aujourd'hui, c'est y aller pour démocratiser cette sensibilité, un milieu qui est très peu connu, avec cette fragilité dont on entend parler, mais c'est pour finalement, plus tu rends proche un problème, plus tu vas te sentir concerné. Et c'est en rapprochant le problème des gens, parce que finalement, si la banquise est fond, tu dis, ouais, bah, ça va, moi, je vais pas être immergé, enfin, tout va bien. Si, parce que si la montée des eaux est trop importante, il y aura des réfugiés climatiques. Qui dit réfugiés climatiques dit guerre climatique, etc., etc. Donc, c'est le combat de tous, et finalement, c'est une belle. Le fait de partager ces lieux-là, c'est leur problématique et l'urgence auxquelles on fait face, ça permet clairement, en fait, de rapprocher ce problème des gens, et qui, le jour où ils l'auront devant le nez, ils diront « Ok, bon, bah là, je vais m'en occuper un petit peu, je pense. » Et je pense que c'est aussi ça qui est super important à travers tous les supports et toutes les expéditions qu'on peut voir aujourd'hui.
Je te rejoins complètement. Je suis tout à fait d'accord.
Bah, j'espère que tu es d'accord. J'ai essayé de faire un truc sympa, là. Enfin, tu m'aurais dit que c'était nul, j'étais dégoûté.
Non, j'étais en train de réfléchir à... Derrière ça... tu vois, les questions, par exemple, aujourd'hui que nous, on se pose, c'est l'exploration doit rendre compte, doit faire remonter une connaissance, doit la diffuser, doit la partager. Pourquoi ? Pour changer. Voilà. Pour changer, je pense qu'on sait tous qu'on vit dans un monde qui est en train de... qui est dans une période de bascule. Voilà.
Qui est en train de changer complètement, effectivement.
Et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Voilà. Et comment on peut agir ? Et l'exploration doit changer de la même manière que, je pense, nos comportements au quotidien, nos habitudes, nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes de déplacement, nos modes de consommation, tout ça, ça doit être remis en question. Et alors, je ne suis pas du tout effrayé, moi, par cette remise en question, parce que je pense que notre génération... je me suis beaucoup remis en question il y a quelques temps, tu vois, parce que depuis que j'étais gamin, j'avais le sentiment d'avoir été éduqué à l'environnement. Depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours entendu parler d'environnement, de réchauffement climatique, de traitement des pollutions, de traitement des déchets, qu'il fallait manger bio, et des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai quand même tiré le constat, et ça c'est pas mal lié à mes gamins, qui poussent aussi à l'interrogation. Ce constat, c'était que... pendant longtemps, je me suis dit, à un moment donné, notre génération, elle va arriver aux commandes, elle va prendre place dans la société et
changer les choses.
Prendre un peu les manettes et donc changer les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout le cas et que c'était même carrément l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que notre génération, ma génération, c'est celle qui a fait exploser le low cost, qui a multiplié les voyages aériens dans le monde. C'est celle où tout d'un coup on a pu complètement exploser notre consommation de biens matériels, notre consommation d'énergie, où les frontières, les distances ont été abolies. Et finalement, tout comme on peut aller manger au restaurant un samedi soir à Barcelone, on peut demain être à l'autre bout de la planète. Et finalement, aujourd'hui, tout ça s'est remis en question, très clairement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Là, le coronavirus, évidemment, ça a posé beaucoup de questions à beaucoup de gens, et j'espère que tous autant qu'on est,
rien n'arrive par hasard.
On ne va pas l'oublier, et il faut garder cette dynamique du changement. Mais on est quand même allé très loin, voilà, je pense, dans nos excès et sans assouvir notre quête du bonheur pour autant. Voilà, je ne pense pas que cette exagération, cette bouillie énergétique
nous a permis en plus d'atteindre le bonheur.
Ouais. Quoi que ce soit supplémentaire en termes de bonheur. C'est important d'avoir de l'argent.
Et
important,
je pense même que c'est l'inverse même. Il y a un truc que m'a dit mon père. En fait, il y a un truc que m'a dit mon père qui m'a touché il y a pas longtemps. Il m'a dit mais tu sais aujourd'hui t'as beaucoup plus de confort sur toutes les en tout cas en France parce qu'on parle de ce qu'on connaît. Mais il dit il y a quelque chose qu'on a perdu, c'est la légèreté en fait. Avant la vie, moi j'allais au boulot, il disait c'était simple, puis voilà, on sait qu'il y avait du boulot, tout allait bien, et puis on se posait pas 50 questions, la vie était simple, on passait beaucoup de temps avec les gens, dans les cafés, dans les lieux de vie, dans les lieux communs. Et il dit aujourd'hui, t'as l'impression que la peur elle est partout, que l'ambiance elle est lourde, que les gens ils sont tristes, que finalement chacun est devant un écran et que on est reclus comme ça. Et je pense qu'en fait, moi, ça m'a fait vraiment clic, en fait, sur ce côté. Et c'est vrai que t'as l'impression, dans le temps, oh, tout allait bien, tu sais, il y avait une espèce de légèreté. Bon, la vie était dure, mais on faisait ce qu'on avait à faire, et après, le reste était un peu léger, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pesant, quoi. Ça fait 30 ans que c'est pesant. Et je pense que la modernité, la consommation, la rapidité nous a fait apporter du stress inconscient et du reclus sur nous-mêmes qui est assez flippant. Et je trouve que, rien n'arrive par hasard. La planète, elle nous a envoyé un petit virus, on ne sait pas ce qu'elle nous a... Parce que vu que les incendies et les catastrophes climatiques, apparemment, ça ne nous fait pas cliquer, c'est dit, les gars, tant pis, hein, ça va être un virus le prochain. Et je pense que c'est ça, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour terminer ce podcast, j'aime bien terminer par deux questions traditionnelles. La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un moment de tes expéditions Under the Pole, et je dirais même celle en Polynésie, parce qu'on a fait vraiment focus sur la Polynésie, et qui n'est pas celui où tu étais immergé la première fois, parce que tu nous l'as dit, ce serait quel moment, si tu pouvais, quel moment tu pourrais revivre et que tu aimerais revivre. C'est pas forcément le plus fort, le plus fou, le plus flippant, je le dis souvent, mais c'est... Quel t'aimerais revivre?
C'est plus, tu vois, alors si, j'allais dire c'est plus dans les régions polaires, mais si tu me demandes en Polynésie...
Si c'est dans les régions polaires, vas-y, hein. S'il y a vraiment quelque chose qui vient tout de suite dans les régions polaires, je serai... Tu sais quoi? On lui mettra les pneus neige à la DeLorean. Toi, tu pourras y aller.
Non, je pense davantage aux régions polaires, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'elles sont... Elles sont plus pures, d'une certaine manière, plus rares, plus lointaines. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments... pendant lesquels j'ai vécu des espèces de moments de grâce, de moments d'une rareté qui en font des moments à part. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu, je pense, si je devais prendre la DeLorean avec des pneus neige et des pneus clous, ce serait pour atterrir au pôle le 26 mars 2010, c'était la toute première expédition que je montais, et on atterrissait avec l'avion sur la banquise, sur le toit du monde. Et si tu veux, il y a un instant qui est pour toujours, c'est celui où l'équipe descend de l'avion, prend ses poulkas, son paquetage, on fait une photo avec le pilote, et le pilote y repart. Et là, on se retrouve tout seul sur le toit du monde, et c'est la fin d'une grande expédition. La grande expédition de la préparation. Voilà. Se donner les moyens d'être là au bon moment, dans les bonnes conditions. Et là, c'est le début d'une autre expédition. Celle pour laquelle on s'est battu, la vraie expédition, celle du terrain. Et il fait moins 45 degrés, moins 50. Le soleil, il est à ras de l'horizon. Les couleurs sont orangées sur la banquise. Et t'es tout seul sur le toit du monde. Il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est engagé. C'est très engagé, et t'es tout seul avec ton équipe, et là maintenant c'est tout droit cap au sud et dans un environnement de survie. Et ça, c'est des sensations que j'ai vécues à ce moment-là, qui ont été d'une puissance phénoménale. Voilà. On dit souvent, si tu veux, il n'y a qu'une seule première fois, et c'est pour ça que cette première fois elle est aussi extraordinaire, parce que il y en a qu'une. Et c'était cette fois-là, donc c'est peut-être à ce moment-là que je retournerai avec ma DeLorean. Maintenant, pour tout de même répondre à ta question, en Polynésie, bah, je retournerai certainement dans les grandes profondeurs, sur des tombants qui sont absolument magnifiques, dans une eau claire, translucide, mais qui nous emmène aussi sur une autre planète, parce que quand on descend à la palme ou au propulseur le long du récif, et que la pente s'accentue jusqu'à tendre parfois à la verticale, et on rentre dans un autre monde dans lequel il y a des ambiances, des lumières, des atmosphères, et puis des animaux qu'on ne voit pas ailleurs, bah on a un peu l'impression de voyager sur notre planète. Voilà.
Oh là là, magique. Dernière question. Si tu devais résumer l'état d'esprit des expéditions Under the Pole en... une citation, une phrase de ta création, une punchline, ce serait laquelle?
Je te dirais la dernière, parce que c'est le sens qu'on donne aujourd'hui, tu vois, à notre travail. C'est celui de faire ça pour nos enfants.
Ah, on fait ça pour nos enfants.
Ouais, la phrase, ce serait aujourd'hui. Je te la cite telle qu'on l'écrit. C'est aujourd'hui plus que jamais. Nous avons la responsabilité morale d'œuvrer à un monde durable, voilà, pour nos enfants, pour leur léguer un monde de paix. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est ça ma cause, c'est ça mon message, et c'est pour ça que je continue Under the Pole. Très franchement. On a eu un beau parcours. Je pense que mes rêves de vingtaine, je les ai assouvis, et j'ai fait des choses extraordinaires et j'espère que c'est pas fini. Mais d'une certaine manière, j'ai eu ma part, tu vois, j'ai eu ma part de rêve, j'ai eu ma part de réalisation. Et si je serais heureux de poursuivre, il faut que ce soit au service de quelque chose de plus universel. Alors c'est ce à quoi on œuvre avec les expéditions dans le pôle depuis longtemps déjà. Mais aujourd'hui, je le fais beaucoup en pensant à Robin et Tom. C'est mes deux gamins, ils ont 8 ans et 4 ans. Et tu vois, il y a un an, le GIEC a publié un rapport spécial sur la cryosphère et les océans qui annonçait une disparition quasi totale des coraux à 2050. Et en 2050, bah, mes deux gamins, ils auront 34 et 38 ans. Ils seront un peu plus jeunes que moi aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et j'ai pas envie que mes gamins puissent se dire... Que nous, nos parents, mais au-delà de ça, cette génération, finalement, leur a légué un monde de chaos, un monde de perte de biodiversité, un monde avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et il n'est jamais trop tard. Et je pense que il y a une dynamique de changement depuis quelques années. Moi, je la sens et donc il faut l'encourager, il faut l'appuyer. Je pense que on peut tous changer notre quotidien, moins prendre l'avion. Ça sert à rien d'aller bouffer à Barcelone le samedi soir. On
Moins
peut, dans la mesure du
consommer,
possible, prendre du vélo, mieux consommer. Voilà. Enfin, j'ai pas.
acheter du seconde main, c'est tout bête en fait, mais c'est...
Il y a plein de choses et on en entend tous parler tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les médias. On est tous au courant et il y a des choses qu'on peut faire avec plus ou moins de facilité ou de difficulté. Je suis pas parfait, mais par contre, j'essaie de changer mon quotidien. Et puis après, on peut tous s'engager aussi. On peut tous appuyer des causes, appuyer des messages, appuyer des associations, se lever quand il le faut et puis encourager les porte-paroles, les gens qui se battent, qui prennent un étendard pour une cause dans laquelle on croit. Et ça, je pense que ça nous fera tous du bien, parce que on voit les changements. On voit les changements à partir du moment où il y a une dynamique, où il y a une énergie qui œuvre à ce changement. Il y a plein d'exemples dans la nature. La nature, elle est résiliente, et quand on relâche la pression, la nature, elle revient. Elle reviendra peut-être
Clairement.
différemment, mais elle reviendra. Et la nature nous survivra. C'est l'homme qui disparaîtra un jour. Mais avant de disparaître, j'ai pas envie que mes gamins demain
On leur lègue une
soit
terre
dans un monde
morte, ouais.
morte et de malheur et avec tout ce qui va avec. Alors même si on n'en est pas là,
Ça peut
c'est
arriver
temps de
vite.
changement et on vivra tous bien plus heureux, je pense, avec un petit peu plus de sobriété et beaucoup plus de partage. Voilà.
La sobriété heureuse, comme disait
Voilà.
l'autre.
Rami.
Ah, tu vas y arriver, tu vas y arriver.
Pierre Rabhi, Pierre Rabhi, merci.
Voilà, Pierre Rabhi, évidemment. Guylain Bardou, je te remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces témoignages, plein d'émotions, plein de vérités et plein de réalités aussi, parce que tu les as vus tes propres yeux, au plus profond d'où on pouvait aller, dans les lieux les plus reculés du monde. Internaute, évidemment, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir avant de partir, c'est une petite dédicace en story. D'ailleurs, si t'es en Polynésie, ou si t'es au bord de la mer, ou si t'es devant ton évier en train de faire la vaisselle, ça marche aussi. C'est une petite dédicace de où tu as écouté ce podcast et n'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé et à le partager, ça nous fait toujours très plaisir. Guilain, moi je te souhaite plein plein de belles ondes pour la suite de cette expédition Under the Pole. Vraiment merci pour tout, merci pour ce témoignage et je te dis à très vite.
Eh bien, à très vite à toi, Alex, et puis salutations à tous les internautes qui nous ont écoutés, et puis à tous ceux qui ont croisé Under the Pole à un moment ou à un autre. Salut à tous.
Ciao.